Pour introduire notre sujet, je vous invite à suivre la lecture de quelques versets au tout début de la Bible, dans les chapitres fondateurs qui évoquent la création par Dieu. Donc au premier chapitre de la Genèse, je voudrais lire les versets 26 à 28, avec de très brefs commentaires, et puis ensuite au chapitre 2, le verset 8 à 15. Donc, Genèse 1, 26 à 28, donc les versets qui précèdent nous rapportent la création du monde dans son ordonnance logique par Dieu, les trois grandes régions, et ensuite les ordres divers de créatures qui peuplent ces régions. Au sixième jour, Dieu a créé toute la faune terrestre. Et au verset 26, le récit continue. Et Dieu dit, faisons l'homme en notre image, comme notre ressemblance. Les prépositions qui sont employées sont susceptibles d'interprétations diverses. Je plaide quant à moi, ce n'est pas une opinion qui m'est juste personnelle. Je plaide quant à moi pour qu'on comprenne de telle sorte qu'il soit mon image ressemblante. En mon image, le « en » a ce sens d'identification. L'homme est créé comme l'image de Dieu qu'il place dans l'espèce de temple qu'est l'univers dont la création a été rapportée dans les versets qui précèdent. Donc, faisons l'homme, on pourrait traduire l'humanité, car le mot a souvent un sens collectif, c'est Adam, Adam. Faisons l'homme en notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine, pluriel, ce qui montre que la perspective ne concerne pas un seul individu, et qu'il domine sur les oiseaux, sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux du ciel, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tout ce qui se meut sur la terre. Et Dieu créa l'homme en son image. En l'image de Dieu, il le créa. Mâle et femelle, il les créa. Le passage au pluriel est très important dans cette dernière partie du verset, car il écarte l'idée que certains ont eue, qui correspond à des mythes qu'on trouve chez les païens, d'un premier être qui aurait été à la fois mâle et femelle, homme et femme. Ce n'est pas la perspective biblique. Si le singulier est utilisé auparavant, c'est qu'il s'agit du sens collectif, il créa l'humanité, singulier à son image, mais dès qu'on passe à la différenciation masculin-féminin, alors là, c'est le pluriel qui est tout de suite introduit. Et Dieu les bénit, et Dieu leur dit, fructifiez, multipliez, remplissez la terre, et soumettez-la. Le mot a parfois le sens de fouler aux pieds. Mais ce n'est pas forcément dans un sens d'oppression ou de mépris. Le sens est essentiellement d'autorité, de pouvoir exercer. Donc, et soumettez-la, et dominez, c'est un autre verbe, donc qui est celui qui était déjà employé au verset 26, dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel, et sur tout être vivant qui se meut sur la terre. Puis au chapitre 2, je pense qu'on peut considérer le chapitre 2 comme une vue en gros plan de ce qui nous est présenté dans un grand zoom panoramique au premier chapitre, dans le rapport entre chapitre 2 et chapitre 1er de la Genèse. Donc au chapitre 2 et au verset 3, versets 8 à 15. Donc, les versets qui précèdent nous disent que la terre était inculte, etc. Et Il nous est dit au verset 7 qu'il a créé l'homme, Adam, de nouveau, de la poussière de la terre, poussière du sol. Et au verset 8, et l'Éternel Dieu, où il y avait Dieu, planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Alors le mot Éden, c'est disputé. Certains disent qu'à l'origine ça voulait dire la steppe. Bon, je ne suis pas absolument sûr. Ce qui est sûr, c'est que dans l'hébreu courant de l'époque de l'Ancien Testament, le mot évoquait le plaisir, le délice. Et donc je pense que la connotation, au moins, même si ce n'était pas l'étymologie pour le nom Éden, c'était un jardin délicieux. Donc Dieu planta un jardin délicieux, et c'est aussi bien l'Orient que l'origine. Les deux mots Orient et origine en français ont d'ailleurs aussi la même racine étymologique. Et je pense que dans le récit d'Éden, il y a tellement de jeux de mots, ou tellement de mots peuvent être pris de deux façons dans l'hébreu, que c'est un procédé mis en œuvre, et que ici les deux sens sont associés. C'est l'état originel, et donc si on localise, si on a l'image de ce jardin, c'est du côté de l'Orient. Donc il planta un jardin du côté de l'Orient, et il mit là l'homme qu'il avait formé, façonné, c'est le mot pour le potier, hein, comme on façonne un vase de potier. Et l'Éternel Dieu fit germer hors du sol tout arbre désirable à la vue et bon à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et mal. Alors là, juste un tout petit commentaire. Donc je trouve assez remarquable que la plaisance pour la vue soit mentionnée même avant la qualité pour la nourriture. Je suis sûr que si ça avait été l'inverse, il y aurait eu des prédicateurs pour dire, vous voyez, se méfier de l'attrait de l'apparence. Ici, ça commence par très agréable, très désirable, littéralement, précieux pour l'esthétique. Voilà qui peut rassurer notre frère Jacques. Et puis ensuite, mais aussi bon à manger. L'arbre de vie est central. Je crois qu'il représente le rapport à Dieu, la communion avec Dieu. Et il y a un autre arbre. Il ne nous a pas dit où il est à cet endroit. Au chapitre 3, au moment de la tentation, alors là, c'est lui qui deviendra central. Là, il est là simplement. Et un fleuve sortant d'Éden pour irriguer ou faire boire le jardin, et de là, il se séparait et devenait quatre, littéralement, têtes. Quatre grands bras. Le nom du premier, Pishon. Alors, nul n'est peut-être sûr de ce qu'est le Pishon. Peut-être, est-ce l'Indus, le Gange même, grand fleuve des Indes, c'est une éventualité, mais c'est pas sûr. C'est lui qui circule dans le pays de Havila, où là se trouve l'or. Et l'or de ce pays est bon, c'est un or particulièrement fin. Là, le bdellium, une sorte de résine, et la pierre d'onyx, une pierre donc précieuse. Et le nom du deuxième fleuve est Gihon. C'est lui qui circule dans tout le pays de Kouch. Alors le pays de Kouch, normalement, c'est l'Éthiopie, ou le Soudan actuel. Et donc ça a l'air d'être le Nil. Et il y a en effet dans un manuscrit de la traduction grecque avant l'ère chrétienne de Jérémie un passage qui appelle le Nil Gihon, ce qui montre qu'en tout cas parmi les Juifs de cette époque il y avait cette identification qui était faite. Le nom du fleuve, troisième, c'est le Hidekel, et ça, c'est, là on le connaît bien, c'est le Tigre. C'est lui qui va à l'Orient de la Syrie, d'Assur, la capitale de la Syrie. Et le fleuve quatrième, lui, c'est l'Euphrate. Pas de commentaire, parce que là, les lecteurs de la Genève savent bien où est l'Euphrate. C'est le grand fleuve bien, bien connu. Alors, c'est le Nil qui passe par l'Afrique. L'Euphrate, c'est la Mésopotamie. C'est l'Irak actuel. Donc, nous avons là deux fleuves qui se situent en Mésopotamie. Les deux grands fleuves, le mot Mésopotamie veut dire entre les fleuves. Les deux grands fleuves, le Tigre et l'Euphrate. Et puis, il y a deux autres fleuves, là, le Pishon et le Giron, qui ne sont pas identifiés de manière certaine. Mais pour le Giron, on peut bien penser que c'est le Nil. Et alors, du coup, on se dit, bon, mais quel est l'autre grand fleuve du monde biblique connu de l'époque? L'Indus, au Pakistan. Nettement plus à l'est, mais quand même, qui était connu. Alors, ça veut dire un jardin d'Éden qui était grand. Ben oui, pourquoi pas? Tout le Moyen-Orient, et peut-être appelé le jardin d'Éden. Au moins, c'est une hypothèse possible. L'autre hypothèse, c'est que ces renseignements n'ont pas pour but de nous donner des indications géographiques précises, mais de nous suggérer que ce jardin était le jardin vraiment idéal, le jardin des délices, avec une eau abondante, les quatre grands fleuves connus des Israélites de l'époque. Sont issus de ce fleuve qui irriguait le jardin d'Éden, de telle sorte qu'il ne manquait certainement pas d'eau. Plus tard dans la Genèse, il est question de la vallée du Nil, comme un jardin d'Éden, parce que le Nil l'irrigue parfaitement. Donc, c'est une possibilité que ces indications, qui se situent avant le déluge, que ces indications soient là pour nous suggérer la plénitude de bénédiction que le Seigneur accordait à ce jardin qu'il avait planté pour sa créature humaine. Et le verset 15 nous dit « Et l'Éternel Dieu prit l'homme et il le déposa dans le jardin d'Éden pour le... » Alors là, nous avons un mot qui peut se traduire de diverses façons. « Le servir » le cultiver. Et c'est même un mot qui est utilisé aussi pour le culte dans le reste de l'Ancien Testament. Les mots culte et culture, en français, je vais y revenir d'ailleurs, ayant aussi la même origine. Donc pour le cultiver, servir, le travailler, on peut traduire ça de diverses façons, et pour le garder. Alors est-ce que cela voulait dire qu'il y avait une menace? Pas forcément, c'est une prise de possession, c'est une responsabilité à l'égard de ce jardin. Comme ces versets sont souvent évoqués à propos de l'écologie, j'ai cru bon de vous rafraîchir la mémoire avec quelques petits détails sur les connotations de l'original. Mais j'en viens maintenant donc à l'exposé que j'ai préparé. Comme vous le savez bien, le sujet de l'écologie est on ne peut plus présent dans le discours collectif. Il y a eu un maximum, un vrai matraquage en décembre dernier avec la COP21. Et je pense utile de consacrer un moment à ce sujet en rapport avec notre foi chrétienne. Alors, je ne suis pas un spécialiste de la question. Je n'ai pas fait de l'écologie un investissement majeur de mes sujets d'études. Mais je m'y suis intéressé quand même depuis un bon bout de temps. Donc je pense quand même pouvoir vous apporter quelque chose qui vous intéressera. Déjà dans les années 70, alors ça fait maintenant 40 ans ou plus, la revue Ictus, dont j'étais co-responsable, a eu un numéro spécial sur le sujet de l'écologie. Déjà à ce moment-là. Dans les années 80, j'avais une conférence que j'ai faite dans plusieurs endroits et qui a donné lieu à un article, Dieu est-il vert? Et puis j'ai écrit d'autres articles un peu plus tard sur le même sujet. Une organisation écologiste chrétienne s'est fondée qui s'appelle A Rocha. Le nom est portugais parce qu'elle a commencé au Portugal et ça veut dire simplement la roche, le rocher, le roc en portugais. Alors cette association est internationale, elle travaille dans maintenant pas mal de pays, mais elle a une branche française et on m'avait demandé d'être dans le comité de référence. J'ai participé à des journées et en dernier lieu, le 5 décembre, il y a eu une journée organisée par A Rocha à l'occasion de la COP21. Il y avait des spécialistes qui jouaient le rôle d'experts à la COP21 d'ailleurs, plusieurs d'entre eux, des spécialistes donc de haute volée, et toute la journée a été consacrée au sujet. On m'avait demandé d'apporter en quelques minutes à la fin un mot de conclusion. J'étais impliqué donc. Et lors de cette journée, plusieurs ont déploré que le message ne semble pas passer aux églises, que nos églises évangéliques, malgré l'existence d'A Rocha, ne semblent guère sensibilisées aux problèmes de l'environnement et de la responsabilité qu'on peut avoir. C'est ce qui m'a aiguillonné et qui m'a conduit à dire « il faudrait bien que je puisse consacrer avec le groupe assez solide pour examiner ces questions-là, que vous êtes le sujet dans une séance d'institut biblique. D'où l'inscription à notre ordre du jour de cette question aujourd'hui. Alors, il y a trois petits livres que je peux citer en bibliographie et que je situe aussi, en fait, dans l'ordre inverse de la date de publication, mais en commençant donc par le plus récent, je commence par celui que je recommande à 100%. Vraiment, je l'ai lu tout récemment. Le son d'auteur me l'a donné il y a quelques semaines, 5-6 semaines, et je l'ai lu en me préparant aussi pour aujourd'hui. C'est de Frédéric Baudin, B-A-U-D-I-N, « La Bible et l'écologie ». Donc, édité par Excelsis et Edifac, Frédéric Baudin, qui était vice-président de l'Alliance évangélique française quand celle-ci existait sous ce nom, et a une double formation scientifique qui, avec y compris l'écologie, est de théologien. Il a pendant un temps enseigné le grec à la faculté d'Aix-en-Provence, il habite Aix-en-Provence, mais il est de conviction plutôt baptiste. Donc il n'est pas devenu professeur dans cette faculté qui n'est pas baptiste. Ce livre-là, vraiment, est excellent. Je trouve qu'il est parfaitement équilibré et très bien informé. Donc, je le recommande à 100%. Pardon ? Peut-être, mais j'en suis pas sûr. Oui. Ils ont quelques livres évangéliques. Alors, Excelsis peut avoir réussi à introduire à la procure cette offre, mais je n'en suis pas sûr. Un autre livre publié par des évangéliques. Mais cette fois, ce sont les éditions Je Sème de Suisse Romande. C'est de Dave Bouckles, B-O-O-K-L-E-2-S, Dieu, l'écologie et moi. C'est une traduction donc, de son livre. Il est le théologien officiel d'A Rocha International. Et il était là le 5 décembre, je l'ai entendu le 5 décembre. Alors il pousse à fond, il est beaucoup moins modéré, et je pense peut-être un peu moins équilibré que Frédéric Baudin. J'ai dans le dernier numéro de la revue de notre faculté, Théologie évangélique, fait une recension de ce livre. En gros, je suis d'accord avec le combat qu'il mène, avec les grandes recommandations qu'il me donne, mais je trouve qu'il utilise des arguments souvent très mal fondés. Je les critique. Bon, je ne critique pas tous, pas tous ceux que je pourrais critiquer, mais dans ma recension, j'en critique plusieurs. Il est tellement désireux de pousser en avant son écologisme chrétien qu'il exagère et qu'il sollicite à l'excès certains passages. Alors, Moi, je ne peux pas laisser passer ça, quoi. Donc, je l'ai dit dans la recension que j'en ai faite. Mais en même temps, il a un certain prestige. Et puis, il raconte des façons concrètes dont il a, lui-même, dans sa vie de famille, appliqué son souci écologique. C'est intéressant. Et puis, j'ai un livre un peu plus ancien, qui, lui, n'est pas d'un auteur évangélique, de Otto Scheffer-Guigné, S-C-H-E-E-A, avec l'umlaut F-E-R, que j'ai rencontré, qui est peut-être le plus intelligent des écologistes non évangéliques que j'ai lus. Alors, c'est un chrétien hein, de profession réformée. Et je trouve que ce livre est très bien fait. Alors, il faut savoir qu'il ne traite pas la Bible avec le même respect entier que nous voudrions, mais c'est quand même un auteur qui, lui, s'est tout à fait spécialisé dans ce domaine depuis déjà plusieurs dizaines d'années et qui est, à mon avis, très stimulant. Donc, je mentionne son livre aussi. Alors, lui, il doit être à la procure, ça ne m'étonnerait pas, mais, sauf s'il est considéré comme un peu trop ancien. C'est chez Labor et Files, l'éditeur réformé de Genève, qu'il a été publié. État de la question, pour commencer. Alors, le mot écologie, d'abord, l'écologie, au départ, c'est la science de l'environnement, comme on dit aujourd'hui. Autrefois, on disait plutôt, dans les milieux scientifiques français, le milieu naturel. On pourrait dire aussi l'habitat, car le mot vient du mot grec oikos, qui désigne la maison. L'écologie, c'est la science de l'habitat des espèces vivantes. Le mouvement des écologistes se caractérise par une prise de position à partir des recherches scientifiques et peut-être au-delà. Ce mouvement lance un cri d'alarme devant la détérioration de l'habitat naturel. Détérioration constatée et détérioration qui menace. Les deux se trouvent très étroitement associés dans le discours écologiste. Et avec le toxin, il y a l'appel aux armes, il y a une mobilisation, un effort de mobilisation de tous pour lutter contre cette évolution négative. C'est cela qui caractérise le mouvement, qu'on peut dire écologique ou écologiste. La détérioration de l'habitat naturel n'est pas une pure nouveauté. En fait, dans l'histoire, on peut remonter même très haut et trouver des exemples parfaitement nets de dégâts causés à l'environnement et de manière qui n'a pas été réversible dans les durées historiques. Le pourtour méditerranéen a été dévasté en particulier par les chèvres. L'auteur qui est entré au Panthéon récemment, comment est-ce qu'elle s'appelle là? Non, la dame spécialiste d'anthropologie et de recherche sur l'Afrique du Nord en particulier. Non, c'est une dame. Une dame. Oh, c'est idiot. Voilà. Il y a un autre nom qui me vient en tête et qui cache l'autre. Bon, je le retrouverai peut-être. Mais enfin, c'est elle qui a écrit un livre intitulé Le harem et les cousins, qui étudie la manière dont des structures sociologiques antérieures à l'islam ont perduré malgré l'islam en Afrique du Nord. C'est très intéressant. C'est un livre d'anthropologie déjà ancien. Elle avait milité pendant la guerre dans la résistance, au péril de sa vie. C'est pour ça qu'elle est entrée au Panthéon, là. Il y a eu Geneviève de Gaulle et elle. Hein. Voilà, Germaine Tillon. Eh bien, elle parle... Elle dit c'était un Éden, c'est elle qui emploie le terme, hein. C'était un Éden tout ce pourtour méditerranéen. Et ça a été dévasté par les chèvres et les pharaons. Et à partir du moment où la déforestation affecte un territoire même qui était très fertile, les pluies enlèvent la terre arable et c'est la perte de cette fertilité. Donc c'est vieux déjà. De tels dégâts, ça a existé dans le passé. Et il y a même eu des personnes pour s'en inquiéter, des voix isolées qui essayaient de prescrire des techniques qui éviteraient une telle détérioration. Mais en gros, on estimait que la nature était toujours capable de réparer, que les dégâts qu'on faisait avec un peu de temps s'effaçaient de la carte. La nouveauté de notre époque, depuis une cinquantaine d'années, c'est un changement d'échelle. Maintenant, la détérioration est si rapide que la nature ne peut plus récupérer et donc il y a urgence. Oui. Voilà la nouveauté essentielle à partir des années 80, essentiellement. Là, il y a une prise de conscience assez générale et il y a un scientifique connu en Allemagne qui avait lancé la formule « la maison brûle ». C'est une urgence du type d'un incendie. Alors, il y a plusieurs composantes que je rappelle. Il y a la pollution. Pollution de l'air, de l'eau. Et ça, c'est vraiment un des plus graves problèmes d'aujourd'hui, y compris de l'eau de tous les océans, malgré la masse énorme. Le mercure et les fragments de plastique deviennent un problème qui semble aigu, de la terre aussi, par les produits, les pesticides par exemple, par l'industrie chimique, avec des accidents comme celui de ces vaisseaux. Il y a aussi la pollution plus biologique par les antibiotiques que l'on administre aux animaux d'élevage pour augmenter les rendements, pour les hormones que l'on leur applique également. Donc, pollution. Et un problème qui peut être de pollution, mais qui est sans doute à part, celui du nucléaire. Nucléaire avec les accidents possibles. Alors là, Tchernobyl et Fukushima. Et d'autre part, les déchets. Que fait-on des déchets radioactifs dont on nous dit que certains mettront 200 000 ans pour perdre leur radioactivité. Ça, c'est le premier grand volet. Deuxième grand volet, la réduction de la biodiversité. Tout au long de l'histoire, de nouveau, des espèces ont disparu. Mais il semble qu'aujourd'hui, ce mouvement de disparition des espèces aille peut-être 100 fois plus vite que le rythme normal. Alors, il y a les effets de la pollution, mais plus encore, il y a les effets de l'industrialisation de la culture, de la déforestation très, très considérable. Tout cela fait disparaître des espèces. L'industrialisation de l'agriculture, elle se voit même, par exemple, à propos de la diversité des espèces de pommes. Alors, il y a une certaine réaction. Il y a des conservatoires, des espèces, des variétés de pommes d'autrefois, mais il y a eu une uniformisation, donc une perte de diversité. De même pour les animaux. Troisième grand problème, celui du réchauffement climatique par l'effet de serre. Alors, le 5 décembre, c'est surtout de celui-là qu'on a parlé, et les scientifiques étaient très très sérieux à son propos, considérant que la menace est capitale. Alors l'effet de serre, j'essaie de vous expliquer très brièvement, ça a été très bien fait le 5 décembre, avec schéma, etc. Vous savez que quand le soleil tape sur une serre, si l'air se réchauffe à l'intérieur, et la chaleur ne s'échappe pas, ou peu, parce qu'il y a le couvercle de verre. La chaleur du soleil, elle entre, mais elle ne sort plus parce qu'elle elle reste confinée par la cloche de verre. C'est ça l'effet de serre qu'on met en œuvre dans toutes les serres de culture du monde. Eh bien, il y a un effet de serre qui joue pour la Terre entière, pour le globe terrestre, il y a des gaz qui, dans la haute atmosphère, constituent comme une sorte de cloche, comme le verre de la serre, et qui empêchent la chaleur du soleil qui traverse et qui vient jusqu'à nous de repartir. Elle est confinée par la serre. Alors ça a toujours existé, et heureusement, parce que si il n'y avait pas cet effet de serre, nous aurions moins 80 ou moins 100 degrés Celsius. Hein. C'est grâce à cet effet de serre que la vie sur Terre, telle que nous la connaissons, est possible. Hein. Le problème qui se pose, et à propos de quoi donc on a réuni tant de conférences, et la dernière de Paris, c'est que cette serre s'épaissit, que cette serre est constituée par des gaz envoyés depuis la Terre, qui là plafonnent, font le plafond de verre au-dessus de la Terre, le gaz carbonique, CO2, et d'autres, le méthane en particulier, et quelques autres, mais c'est les deux principaux. À cause, nous dit-on, c'est ça le discours écologiste en tout cas, à cause de l'industrialisation, l'équilibre qui était constitué depuis longtemps entre la chaleur qui entre et la chaleur qui sort, de telle sorte qu'une température agréable se maintenait sur Terre, cet équilibre est rompu. Nous envoyons tellement de gaz en supplément là-haut que la chaleur, au lieu de quand même partir un peu à travers ce plafond, reste davantage et du coup la température s'élève. Oui. L'effet de serre est un effet d'augmentation de la température terrestre du fait que la chaleur évacuée est moindre. La cloche de gaz qui constitue la serre s'étant épaissie à cause, dit-on, de l'industrialisation humaine. Alors, il semble tout à fait certain qu'on ait observé depuis deux siècles une augmentation moyenne de la température sur la face de la Terre, et encore tout récemment, une augmentation qui continue, qui coïncide dans le temps avec l'évolution, l'industrialisation de la planète. Donc, on dit voilà, c'est là la cause principale. Et les conséquences peuvent être dramatiques. Voilà ce qu'on nous dit également, le discours écologiste. Donc, les conséquences sont dramatiques. Tornades, typhons multipliés, toujours plus violents, et sécheresse épouvantable dans certains lieux, etc. Et puis, élévation du niveau de la mer, puisque la glace des pôles fond, et au moins pour la partie qui était au-dessus du niveau de la surface de la mer, ça fait une augmentation de l'eau globale dans les océans. Du coup, l'eau s'élève. Or, il y a bon nombre de pays qui sont juste à la limite et qui vont être submergés. Des tas d'îles du Pacifique en particulier qui ne se sont qu'un ou deux mètres. Et donc, quand l'eau de la mer s'élève un peu, ces pays peuvent disparaître. Voilà les éléments qui nous sont communiqués, et avec des appuis scientifiques très forts. Alors, ce qui cause tout spécialement, j'ai dit l'industrialisation, ce qui cause tout spécialement l'augmentation de ces gaz à effet de serre, et donc l'effet de serre, c'est la combustion des énergies fossiles. Les énergies fossiles, c'est l'énergie solaire qui a été en quelque sorte condensée et mise en réserve par processus chimiques divers, dans le charbon, dans le pétrole, etc. Et cette énergie qui vient au départ du soleil, nous la dépensons sans compter depuis deux siècles, et cela envoie du gaz carbonique en quantité dans la haute atmosphère, d'où cet effet de serre. toute la propagande pour des énergies propres qui n'envoient pas de CO2. Oui. Les cellules photoélectriques, les éoliennes, etc. Depuis le fameux article de 1967 d'un certain Lynn White, beaucoup d'écologistes dénoncent l'influence biblique comme cause de cette détérioration de l'environnement. C'est parce que la Genèse dit à l'homme souhaiter la terre, dominer sur elle, que le christianisme a répondu une attitude méprisante à l'égard de l'environnement, une exploitation sans limite. Donc cette détérioration est due à l'influence biblique dans le monde entier. C'est une cause qui est dénoncée avec souvent association de féminisme. Il y a des formes de féminisme, il y a un féminisme évangélique aussi, hein, mais je parle des formes plus répandues de féminisme qui accusent le Dieu de l'Ancien Testament, cet éternel Yahvé qui est mâle, guerrier, brutal, colérique, etc., qui accuse donc le caractère phallocratique, patriarcal de la religion de l'Ancien Testament avec un Dieu hyper mâle, d'être la cause de cette attitude à l'égard de l'environnement, alors qu'on prône plutôt une relation d'enfant à mère par rapport à la terre, la terre-mère. Oui. Il y a dans ce mouvement écologiste deux ailes qui d'ailleurs peuvent interférer, peuvent se conjuguer. Une aile qui est plutôt politique, une aile radicalement politisée, où se sont recyclés beaucoup de gauchistes. Avec l'effondrement de l'espérance marxiste, beaucoup de gauchistes trouvaient leur nouveau combat et leur thème de lutte contre le capitalisme, et tout spécialement contre le capitalisme américain. Vous avez un anti-américanisme qui est très, très vif. Beaucoup se sont recyclés dans l'écologie. Ce qui explique que ce combat écologiste, c'est le cas du parti dit des Verts, hein, aujourd'hui chez nous, associe à cette lutte pour la nature des thèmes qui sont en fait très peu naturels. Pour l'avortement, s'il y a un attentat contre la nature, c'est bien cela. Pour le mariage homosexuel, etc. C'est parce qu'il s'agit d'un certain gauchisme politique qui associe la défense de la nature et ce rejet de tout le joug de la morale traditionnelle. Et puis vous avez une autre aile qui est plus religieuse, néo-païenne, où la terre appelée Gaïa, nom grec, est personnifiée et devient même une déesse, où il y a recommandation d'un nouveau culte avec des rites, hein, des cérémonies de culte de la déesse Gaïa, et de nouveau une association là aussi avec certains éléments de féminisme. Les chrétiens, en dépit des accusations, ont, ils n'ont pas répondu bien sûr, mais d'autre part, ont adopté le souci écologique. Je pense qu'en premier lieu, c'est le Conseil œcuménique des Églises qui l'a fait. Ça a été claironné dès les années 80. Le Conseil œcuménique a lancé un programme justice, paix et défense de l'environnement. Il y a déjà eu des conférences à cette époque. Les catholiques s'y sont mis, me semble-t-il, un peu plus tard, mais ils y sont très fortement aujourd'hui avec le pape François. Il y a une tradition de saint François d'Assise qui est une tradition de vénération de la nature et pratiquement de la terre-mère qui est très très vivace. Et si le pape Bergoglio a pris le nom de François, c'est très très précisément pour se situer dans cette lignée, pour rendre hommage à François d'Assise. Et il a récemment donc lancé une encyclique qu'il a rédigée, si j'ai bien compris, non même pas en italien, pas en latin comme c'est d'habitude, le cas des encycliques, mais même pas en italien, mais en dialecte toscan, en dialecte de cette forme de l'italien typique du pays de François d'Assise. Donc c'est dire la force de la référence là à ce souvenir franciscain. Et puis alors il y a les évangéliques, au moins certains d'entre eux, avec tout spécialement à Rocha, que j'ai présenté. Alors, justification biblique de l'engagement écologique. Voici ce que je vous suggère. Alors, oui, je vais essayer d'aller vite. Ne nous laissons pas détourner par les formes hideuses, politiques ou néo-païennes, qui correspondent à des radicalisations. Sachons que dans ce monde, même le meilleur peut être perverti constamment. Donc le fait qu'existent ces formes-là n'autorise pas à condamner, pour moi simplement, le souci écologique. Et ce n'est pas une mauvaise excuse donc pour ne rien faire de notre côté, pour fermer les yeux sur ce qui nous gêne ou boucher les oreilles. Donc ne considérons pas ces formes-là. Il est sûr, me semble-t-il, que la domination selon la Genèse doit être conçue comme bénéfique pour les autres créatures. Qu'elle n'est pas illimitée, c'est celle d'une gérance, car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Et l'homme devra rendre compte, il est établi par Dieu dans une situation de gestionnaire, de gérant, de jardinier pour le jardin d'Éden. Et cela veut dire qu'il ne fait pas n'importe quoi et tout ce qu'il veut. Et en ce qui concerne le thème de la domination, le roi, le dominateur, dans les perspectives bibliques, le roi, c'est le berger. C'est le berger de son peuple. Le berger prend soin de ses brebis. C'est là l'idéal royal dans l'Ancien Testament. Le roi n'est pas un tyran. Le roi n'est pas un individu qui écrase les autres, un super loup, comme dans certaines théories politiques humaines. C'est là la perspective biblique. Donc les passages que nous avons relus n'autorisent absolument pas les humains à faire n'importe quoi, à exploiter selon leur simple caprice ou le caractère insatiable de leur désir tout ce que Dieu a organisé et créé pour que l'homme ait le cadre le plus merveilleux pour sa vie devant Dieu. Donc ça, c'est, je crois, tout à fait sûr. Et les deux verbes, donc de Genèse 2, c'est pour ça que j'ai voulu les lire, hein, pour cultiver et garder le jardin, servir, garder le jardin, sont bien là pour montrer cette situation de l'humanité. C'est par déviation et incompréhension qu'on a pu tirer de ces commandements de la Genèse l'idée d'une exploitation sans limite de la nature par l'humanité. Ça, je pense que nous pouvons le dire, c'est très clair. Il y a péché, ça peut encore l'ajouter, quand la cupidité des humains les conduit à consommer bien au-delà de leurs besoins. La cupidité ou avarice est une idolâtrie, d'après Colossiens 3. C'est une idolâtrie qui est condamnée, et condamnée aussi, me semble-t-il, dans une perspective biblique générale, la démesure prométhéenne des prétentions techniques de l'humain. Se prétendant le créateur, capable d'inventer tout ce qu'il veut, c'est Prométhée. Prométhée, c'est le héros grec qui avait volé le feu aux dieux. Et il y a une ambition prométhéenne de l'homme moderne, avec ses grands succès techniques. Je pense qu'on peut dire que cela n'est pas du tout dans une perspective biblique. Nous pouvons estimer que toute créature de Dieu, Dieu a dit qu'il l'a vue bonne, hein, Dieu vit que bon, possède sa valeur propre. Il est très intéressant, au chapitre 1er de la Genèse, de voir que après chaque création, Dieu dit « Dieu vit que bon », et puis quand il voit l'ensemble, Voici très bon. Bon à l'extrême, superlativement. Voyez. Mais donc toute créature, dans son identité, est bonne. Alors, à mon avis, Dave Buckles, au-delà de ce que je dis et que je tire du texte, en disant que cette valeur propre de chaque créature est indépendante de l'homme. Là, le texte ne le dit pas, et je crois qu'au bout du compte, l'ensemble biblique conduirait à dire non. Toute créature est bonne à sa valeur, mais à l'intérieur du projet global de Dieu qui vise suprêmement l'homme comme image de Dieu. C'est comme une part de l'environnement humain, avec cette autorisation pour l'homme de dominer sur tous les êtres et de les consommer. C'est comme une part de tout cela que tous ces êtres sont distinctement bons. Et je pense que Dave Buckles, là, va trop loin dans le sens d'une sorte de vénération, que je veux dire néo-païenne, de chaque élément de la nature comme pour lui-même. C'est pas pour lui-même, c'est de la part de Dieu, en vue du projet global de Dieu, qui a sa clé de voûte en l'homme, et après la chute, en l'homme Jésus, en qui tout est récapitulé. Fondement aussi d'un souci écologique chrétien, la perspective de la fin du monde, que nous croyons prochaine, ne doit pas nous démobiliser. C'est une réaction que Dave Buckles combat comme il peut, mais c'est aussi présent chez Baudin. De nouveau, je pense que Buckles exagère un peu, mais il a raison quand même fondamentalement. Nous ne devons pas dire, oh bien, puisque ce monde doit être détruit à brève échéance, alors peu importe qu'il soit tellement abîmé. Il y a deux ou trois raisons qui me semblent aller contre cette attitude. Une première raison très très simple, c'est que nous sommes appelés à l'amour du prochain. Or, et maintenant. Or, l'amour du prochain implique que son environnement ne soit pas trop abîmé, car la vie du prochain est largement atteinte. Et un thème qui revient très très souvent dans le discours écologique, que j'ai entendu plusieurs fois le 5 décembre, c'est que c'est nous qui envoyons du CO2, nous les Occidentaux confortablement installés, en masse, et ce sont les populations démunies, les populations pauvres, qui en souffrent. Bien davantage, dont les îles seront submergées, au Bangladesh, des millions et des millions qui risquent d'être complètement submergés. Donc, en fait, il y a une injustice très, très sérieuse que nous commettons lorsque nous ne nous soucions pas de leur souci du prochain. Deuxième raison, Dieu ne veut pas que nous spéculions sur le jour et l'heure. La fin du monde, elle est certaine, elle vient, mais Dieu veut que nous prenions nos responsabilités là où il nous a placés, dans le temps qu'il nous donne, tant que ce temps dure. Et nous n'avons pas à spéculer. C'est quelque chose de présomptueux, d'indiscret par rapport à la souveraineté divine. Il paraît comme on raconte, ça c'était apocryphe, hein, mais qu'on a demandé à Luther, parfois on dit un autre, mais que Luther, ce qu'il ferait si on lui disait que le Seigneur Jésus revient demain. Bien, je planterai un arbre. Voilà. Je continue à vivre dans la perspective du temps qui dure, parce que c'est celle que le Seigneur me donne. Troisième raison. Tout ce que nous faisons sur cette terre, malgré la rénovation radicale qu'elle va subir comme nouvelle création, compte pour la situation qui résultera de cette nouvelle création. Je ne pense pas qu'on puisse expliquer comment. Mais il y a une continuité. D'abord, c'est cette terre qui sera recréée. Ce n'est pas une terre, il efface et puis il recommence ailleurs. c'est notre terre qui sera radicalement renouvelée, recréée, comme notre corps sera ressuscité, recréé, notre corps qui est une participation à la terre, au fond. Il y a une continuité, et dans cette continuité, Dieu s'arrange pour ne rien perdre de valeur. Je crois que nous devons, dans notre espérance, dire très résolument, sans que nous sachions comment Dieu s'arrangera, pour que nous n'ayons aucun regret. Et il n'y a pas une chose de vraie valeur dans l'histoire qui sera perdue dans la récapitulation de toutes choses, dans le Christ glorieux de son avènement. C'est dans ce sens que je prends au chapitre 21 de l'Apocalypse la mention que la gloire et le prix des nations entreront dans la cité sainte, dans la nouvelle Jérusalem, tout ce qui aille du prix. Donc ce que nous faisons qui a de la valeur et qui protège la valeur dans la première création sera, d'une manière ou d'une autre, engrangé par Dieu. C'est la moisson des semailles de cette vie que nous attendons, et la moisson correspond à la semence. Voyez. Donc, il n'y a pas pour nous à dire oh, « ça n'a pas de sens ». Si, ça a du sens. À cause de la résurrection, donc de la nouvelle création, nous savons que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Fin d'un Corinthiens 15. Et je pense même le travail qui protège l'environnement. Voyez. Mais ces éléments marqués, il reste des éléments de décision difficiles, pour moi en tout cas. Alors, je vous en fais part. Première décision difficile, quelle source d'information privilégiée ? Sur le climat, par exemple, il y a encore des climato-sceptiques. Il y a Claude Allègre, qui est connu, qui est quand même un scientifique de haut niveau, hein, et qui a été ministre de l'Éducation nationale, Claude Allègre. Il y a un frère évangélique, qui est professeur à l'Université de Bruxelles, expert sur les questions écologiques auprès du Conseil européen, en même temps pasteur d'une église, j'ai parlé dans son église, dans la banlieue de Bruxelles, Samuele Furfari, d'origine italienne mais il est en Belgique, et il pense que ce n'est pas l'industrie humaine qui est le facteur principal de l'augmentation de la température, du réchauffement. Alors, il y a un débat, moi je ne suis pas apte à le trancher. Le 5 décembre, on nous a dit qu'il y a 97% des scientifiques qui affirment que c'est l'activité humaine qui cause le réchauffement. Ben, il y a quand même 3% qui ne sont pas tout à fait d'accord et qu'on tend plutôt à museler dans nos médias. On ne leur laisse pas la parole. Alors, je dis, mais j'ai mauvais esprit, hein, mais je dis, il y avait aussi 97% des experts qui disaient « Confiez vos économies à Manoff. » 97% des experts, ce n'est pas une certitude absolue. Voyez. Donc, quelle information privilégiée ? Et là, je me dis, il est sûr qu'il y a d'une part des manipulations par des puissances énormes, des multinationales, des multinationales comme Monsanto pour les pesticides, qui vont aller contre le discours écologique et manipuler les données. Mais il est sûr aussi que de l'autre côté, il y a des idéologues, on sent bien que c'est une idéologie, que leur foi écologique, pleine de haine pour ceux qui ne seraient pas tout à fait d'accord avec eux, peut aussi infléchir leur traitement des données. Alors, pour moi, ce n'est pas facile de dire quelle information privilégier. Deuxième remarque, les constats des effets sont plus sûrs que les affirmations sur les causes. En particulier, donc, pour le réchauffement, il y a une objection qu'on adresse très très souvent, c'est celle du petit âge glaciaire, comme on l'appelle. Vous savez que, en gros, du 14e au début du 18e siècle, il y a eu un refroidissement très considérable de la température dans nos régions, etc. Les glaciers ont nouveau augmenté, etc. Pourquoi ? Pourquoi à ce moment-là ? Alors, j'ai entendu le 5 décembre une explication, mais c'est une hypothèse. L'explication est la suivante. Vous allez voir à quel point c'est intéressant. Ce serait la conquête espagnole de l'Amérique qui serait la cause. Comment ? Vous savez que cette conquête, essentiellement à cause de l'introduction des maladies contre lesquelles les populations n'étaient pas immunisées, cette conquête a bien plus que décimé. Décimé, ça veut dire moins 10%. Hein. Mais c'est bien pire. C'est plutôt à 90% que les populations indiennes d'Amérique ont été dévastées par les épidémies importées d'Europe lors de la conquête. Cela, nous dit-on, a amené une reforestation. La forêt a regagné du fait que la population s'est tellement réduite après la conquête des Amériques. Il y a eu arrêt de la déforestation humaine et recrudescence de la forêt qui a avalé le CO2, qui a avalé le gaz carbonique. Et du coup, il y a eu moins de gaz carbonique. Du coup, la couche, ce plafond de l'effet de serre a diminué et ça a refroidi la Terre. Voilà l'explication que nous a fournie. Alors, elle est très intéressante. Elle montre qu'il y a quand même des mécanismes, si le CO2 est réussi à être piégé sur Terre, des mécanismes qui peuvent inverser le processus. Mais c'est une hypothèse. La première fois que je l'entendais, ce n'est quand même pas encore une certitude. Vous voyez ? Donc, sur les causes, on peut s'interroger. Il y a aussi, à ce propos, une sorte de silence sur des causes évidentes qui me semblent idéologiquement motivées. Le facteur démographique, certains le mentionnent, mais il n'est quand même très peu mentionné. Or, vous vous rendez compte que, en 50 ans, la population du globe a doublé. Vous vous rendez compte que pour le problème d'un pays comme l'Égypte, là, cette vallée du Nil, hein, on est passé au début du 19e siècle à 1,5 million, 1,8 million peut-être d'habitants, à près de 100 millions aujourd'hui. Vous vous rendez compte, du point de vue de l'écologie, ce que cela peut impliquer, voyez ? Or, c'est très rarement mentionné. Et on peut ajouter à cela que l'Occident, notre Occident, est responsable en grande partie, mais comment ? Il est responsable en grande partie par la médecine et des techniques de culture qui ont permis de nourrir. Auparavant, la population ne grandissait pas comme ça, à cause des famines, à cause des pestes. Alors, l'Occident est coupable de bien des choses, mais il est coupable en un sens par le bien qu'il a fait aussi. Vous voyez la complexité lorsqu'on se met à analyser les causes. Troisième remarque, que peut-on attendre, troisième question pour moi, de la technique pour la solution des problèmes que la technique a pour une part engendrés. Dans le petit livre de Frédéric Godin, il y a des pages très intéressantes pour montrer que le bilan de la voiture électrique, par exemple, ce n'est pas si clair. Parce qu'il ne faut pas compter seulement le gaz carbonique qui ne sera pas renvoyé par la voiture électrique, alors qu'elle l'est par la voiture à essence ou à gazole. Mais il faut compter aussi tout ce qu'on dépense avec le gaz carbonique envoyé pour construire la voiture électrique et pour fournir l'électricité aussi. Et finalement, le bilan, c'est pas si évident que ça. Voyez. Alors, que peut-on attendre ? Puis il y a la grande question du nucléaire. Au moment de la COP21, j'ai lu qu'il y a eu un manifeste d'un groupe d'experts à la COP21 recommandant le nucléaire. alors que le mouvement écologique dans son ensemble est très opposé. Oui. Mais parce que, par rapport à l'émission de CO2, en tout cas, ça semble, à court terme, dans la limite de quelques décennies, le seul moyen d'éviter la projection de beaucoup de CO2 dans l'atmosphère. Vous voyez donc à quel point les questions sont là complexes. Quatrième question que je me pose, le rapport aux animaux, ultra sensibles. La sensibilité commune a changé à ce propos énormément en quelques décennies. Alors, je partage l'horreur devant les descriptions des élevages en batterie. Et il me semble qu'en effet, il y a quelque chose qui n'est pas admissible de respect de la création de Dieu. Mais en même temps, je remarque que la Bible, quand même, ne s'inquiète pas beaucoup des animaux. Et la souffrance animale n'est pas du tout comparable à la souffrance humaine, car il n'y a pas de « je », de personne dans l'animal qui est sujet de la souffrance. Alors ça change radicalement les choses. Nous ne pouvons pas l'imaginer. Il y a bien des éléments de psychisme qu'on distingue, etc., mais il n'y a pas de « je ». Aucun animal ne dit « je ». Oui. Alors, la Bible ne me semble pas aller aussi loin que la sensibilité commune aujourd'hui, hein, à ce propos. Alors, que faut-il faire? Vous voyez, je ne sais pas tellement bien. Et enfin, cinquième question. Voilà, merci de patienter. Jusqu'à ce moment, quelle est la façon juste et efficace de réagir? Une façon qui est assez évidente quand même, bien qu'il essaye de s'en garder un peu chez Bouclès, c'est de culpabiliser les occidentaux et les chrétiens occidentaux, s'adresse aux chrétiens. Bouclès peut dire par exemple, c'est un péché, c'est un péché que de laisser sa télévision en stand-by, sans l'éteindre. Oui. Bon. Il ne dit pas de légalisme, mais en même temps, ça ressemble quand même pas mal à du légalisme. Donc, et il y a la question de ce qui est juste et la question de ce qui est efficace. Voilà. Il me semble, mais vous voyez, j'hésite, hein, que nous avons une responsabilité réelle, et en pensant aussi aux populations qui vont être les plus affectées, semble-t-il, par la pollution d'abord. Pour moi, la pollution est plus grave encore que le réchauffement. Et il n'y a aucune excuse quand nous déversons nos déchets toxiques sur des plages du tiers-monde, hein, parce que là, il n'y aura pas de réaction. Non, ça, c'est honteux, c'est sûr. Il y a une responsabilité. Mais cette responsabilité, de manière générale, je ne crois pas qu'elle soit infinie. Nous sommes dans la main de Dieu. Nous ne pouvons pas juger de toutes les répercussions de ce que nous faisons. Nous ne pouvons pas porter tout le poids du monde. Ça, c'est pour un personnage mythologique, c'est pour Atlas, c'est pas pour nous, parce que nous sommes dans la dépendance de Dieu, et ce qu'il met sur notre table, nous n'avons pas à nous inquiéter outre mesure. Toute la question, c'est de la mesure, oui. Outre mesure de tout ce qui a été impliqué pour que cela soit produit. Je crois qu'à élever notre responsabilité au-dessus de sa mesure, c'est une façon de se diviniser, en quelque sorte. Il y a un grand philosophe, il y a relativement peu de temps, qui affirme cet infini de la responsabilité. Mais il dit lui-même, c'est un inconfort divin. J'ai trouvé cette formule chez lui, c'est Emmanuel Lévinas. Inconfort divin. Eh oui, on se prend pour Dieu quand on se fait responsable de tout. Alors, il me semble que nous devons chercher une sorte d'équilibre dans la responsabilité, sachant que nous ne sommes pas en dernier ressort les responsables, que nous sommes là dans la dépendance du Dieu qui détermine toute chose. Et comme moteur, je pense que plus que la culpabilité, c'est la joie de voir des choses qui réussissent. Il y en a, il y en a. Bon, il y a une initiative gouvernementale qui a très bien marché. Vous savez qu'il y a quelques années, on s'inquiétait énormément du trou de la couche d'ozone. C'est une autre protection dans la haute atmosphère contre des rayonnements qui pourraient être mortels pour les humains. Et cette couche était détruite par les gaz CFC, ceux qui étaient dans les frigos de l'époque. Et ces gaz ont été absolument interdits, et ça a marché. La couche d'ozone, maintenant, n'est plus en danger. Ça a marché. Oui, elle se referme. Ça a réussi. Autre élément de réussite, contre le désert qui gagne, à la limite du Sahel, il y a une œuvre. Donc, Frédéric Godin connaît le responsable. Moi, je l'avais remarqué, j'avais reçu par Internet des nouvelles, j'avais trouvé ça remarquable. J'avais même retransmis à mon fils François une tentative agronomique qui s'appelle Terre verte de lutter contre le désert. En tenant compte de tous les éléments sociaux, aussi commerciaux, etc., de créer une réhabilitation de l'environnement, une refertilisation des terres, etc. Et ça marche, ça marche.
Il y a un projet de faire une barrière verte qui irait depuis le Sud-Égal jusqu'à la Corne de l'Afrique.
Ça serait magnifique. Mais ce n'est pas impossible. Voilà, me semble-t-il, quelque chose qui peut nous encourager et nous porter à agir en tant que chrétien. Cette terre verte, apparemment, Henri Girard, le fondateur, c'est un chrétien. Et Frédéric Baudin cite un autre exemple en Tunisie d'un pasteur réformé. Là, je ne connais pas. Mais... Voilà. Donc, voilà ce que je vous propose pour la réflexion. Oui.